Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes le 4 juillet, date fériée aux États-Unis où c'est le jour de l'indépendance. C'est aussi le jour de réouverture de la Statue de la Liberté, fermée aux visiteurs depuis 8 mois à cause des dégâts causés par l'ouragan Sandy. De quoi inspirer Franck Ferrand? Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. En cette période de tension et de tension compréhensible entre les États-Unis et l'Union européenne, on aurait tendance à oublier ce grand emblème de l'amitié franco-américaine qui rouvre aujourd'hui la Statue de la Liberté. Inutile de vous présenter la demoiselle, Miss Liberty, la New-Yorkaise, est devenue l'effigie du Nouveau Monde. Pour des générations d'émigrants, elle aura été la porte vers une existence nouvelle, un accès à la terre promise. Au fil des générations, les citoyens des États-Unis ont fini par s'identifier à elle. Or, je pense que l'on étonnerait la plupart d'entre eux en leur rappelant que cette statue géante est un cadeau fait aux États-Unis par la France.
Pour nous raconter l'histoire de la Statue de la Liberté, vous avez invité deux grands spécialistes des États-Unis.
Eh oui, Nicole Bacharan, qu'on ne présente pas, c'est une des bonnes fées de cette émission, et Dominique Simonet. Ils n'ont encore publié ensemble qu'un ouvrage sur le 11 septembre, non pas sur la Statue de la Liberté, mais je sais que ça fait partie de leur projet, qu'ils ont ça dans leur tiroir.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
L'idée de réaliser une statue incarnant la liberté est née donc en France en 1865. C'était à la suite de l'assassinat du président Lincoln. Cet assassinat a été un véritable traumatisme pour les libéraux de toute la planète et notamment en France pour les républicains. Faut pas oublier qu'on est sous le Second Empire à l'époque et qu'il y a ces républicains qui s'inspirent en fait des États-Unis. Ils ont l'intention de frapper une médaille en or, de l'offrir à la veuve de Lincoln. Eh oui, seulement la police du Second Empire est efficace, elle n'aime pas du tout les républicains et la médaille est interdite par la censure, ce qui fait que le projet reste inabouti. Imaginez la consternation dans les milieux républicains et notamment à Glatigny, près de Beauvais, chez un certain sieur Lefebvre de la Boulay, personnage important, membre de l'Institut, titulaire de la chaire de législation comparée au Collège de France. Voilà un juriste influencé par la pensée de Tocqueville, un homme à l'époque âgé d'une bonne cinquantaine d'années et qui anime chez lui un cénacle pro-américain, tout à fait républicain bien sûr, cénacle où se réunissent surtout des francs-maçons dont le grand historien Henri Martin. Eh bien c'est là, à Glatigny, que va naître l'idée d'un cadeau des républicains français aux citoyens des États-Unis dans la perspective de la célébration en 1876 du centenaire de leur indépendance. Une manière pour ces amoureux de l'idée républicaine de solliciter la bienveillance de la seule grande république de l'époque, avec, sous-entendu, l'espoir d'un changement de régime en France, bien sûr, qui permettrait d'instaurer des liens profonds de fraternité entre les deux continents. Or, chez lui à Glatigny, M. de la Boulay vient justement de faire sculpter son buste. Il a pour cela fait appel à un jeune artiste de 31 ans, un Alsacien d'origine aux sympathies républicaines affichées, Frédéric Auguste Bartholdi. Bartholdi passe du temps dans l'intimité de la Boulay, il rencontre ses amis, il surprend des conversations. Et quand on parle de faire un cadeau aux États-Unis sous la forme d'un monument ou d'une statue, évidemment, il dresse l'oreille. Pour ce jeune Bartholdi, il n'y a pas à tergiverser. Une telle œuvre doit prendre la forme d'une statue colossale, quelque chose de très monumental, à la façon de ces colosses égyptiens de même nom qu'il a pu admirer. Il faut vous dire, il a des références, le jeune Bartholdi. Il sait vraiment de quoi il parle, parce qu'en 1856, il a effectué avec tout un petit groupe d'amis esthètes un long voyage en en Abyssinie et en Égypte sur les traces de Flaubert et de Maxime Ducamp. Les amis ont remonté le Nil pendant 8 mois. Ils ont découvert sidéré le gigantisme de l'Égypte pharaonique. Et pendant tout le périple, Frédéric Auguste n'a pas cessé de prendre des croquis, des dessins, même des photos pour alimenter son imaginaire, son envie d'une statuaire géante. Du reste, ce goût du colossal colle assez bien aux idées de l'époque, il faut le dire. N'oubliez pas que nous sommes en plein dans cette période d'industrialisation enthousiaste. Bartholdi, du reste, a déjà fait ses preuves dans ce registre. Tout jeune, il a présenté dans le cadre de l'exposition universelle de 1855 une statue du général Rapp, une statue dont on ne savait pas trop quoi faire et qui finalement sera déplacée à Colmar en 56. Et puis ensuite, dans les années 65-66, Bartholdi a nourri le projet d'un phare monumental à bâtir à l'entrée du canal de Suez. Ça s'appellerait l'Égypte apportant la lumière à l'Asie, ou bien même la liberté éclairant l'Orient. Vous me voyez venir de la liberté éclairant l'Orient au Caire à la liberté éclairant le monde à New York. Il n'y a qu'un pas vite franchi, un pas de géant certes, mais je vous l'ai dit, les géants, c'est justement le domaine de Bartholdi.
Rhapsody in Blue, une musique composée par George Gershwin en 1924. Ce titre a été créé durant l'après-midi du 12 février 1924 sous le titre An Experiment in Modern Music.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et c'est la Statue de la Liberté qui est au cœur de l'histoire en ce 4 juillet, fête nationale aux États-Unis. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1 pour les États-Unis, auteur du 11 septembre, Le jour du chaos aux éditions Perrin, qui sera d'ailleurs édité en pocket en septembre prochain, et son co-auteur, Dominique Simonnet, écrivain, journaliste et éditeur.
Et co-auteur pour un ouvrage qui s'appelait 11 septembre, le jour du chaos, mais aussi peut-être co-auteur pour un ouvrage sur la Statue de la Liberté, Dominique Simonnet.
Peut-être, on ne sait pas. Ça fait partie des projets, effectivement. Bon.
Alors, revenons à ce dîner où tout s'est noué, tout s'est décidé. On est chez Monsieur de la Boulay, donc à Glatigny, chez lui, et à table se trouve le jeune sculpteur qui vient de terminer son buste, ce fameux Bartholdi.
Oui, fait. Et on a là les deux hommes clés, ceux qui vont être véritablement les pères de la Statue de la Liberté. Bartholdi croit pas trop à cette idée de franco-américaine au début. C'est quelque chose, bon, il n'est pas très familiarisé à ce genre de choses, mais il a en face de lui Édouard de la Boulay, qui est, vous le disiez, un homme entêté, homme politique. Il sera sénateur et un professeur au Collège de France. Il est amoureux de la Constitution américaine. C'est quelqu'un qui il trouve que c'est vraiment ce qu'on a fait de mieux, et il voudrait la même chose pour la France. On le sait, à ce moment-là, la France connaît un régime d'instabilité. On hésite sans arrêt entre la République, la réaction, etc. C'est vraiment un pays qui...
Au moment où naît le projet, on est dans ce qu'on appelle l'Empire libéral, c'est-à-dire la fin du Second Empire. Napoléon III a un peu lâché la bride, c'est même, quand je dis un peu, beaucoup. Ouais, donc ce sont les libéraux qui sont au pouvoir, mais dans un cadre monarchique. Et puis il va y avoir, bien sûr, cette guerre contre la Prusse, et puis l'effondrement de Sedan le 4 septembre 70. Et puis d'un seul coup, alors là, on est dans la grande interrogation, puisque pendant plusieurs années, la classe politique française ne sait pas, elle hésite entre monarchie, république, régime conservateur, régime progressiste. Tout ça est une grande nébuleuse qui n'aboutira qu'à la fin des années 70 sur ce régime républicain vraiment installé, Nicole Bacharan.
Tout à fait. Je pense que quand on se replonge dans cette époque, cette guerre de 70, c'est un choc immense en France. C'est vrai que c'est une guerre qui est voulue, déclenchée par Napoléon III, pensant, comme souvent quand on déclenche une guerre, que ce sera rapide, facile, une victoire éclatante.
Qui va un peu forcer la main, voilà, enfin, on va pas entrer dans l'histoire de la guerre 70.
Mais qui va redorer en tout cas son blason impérial. Bon, c'est une défaite cuisante à Sedan. Paris est bombardé. Paris est vraiment très très marqué à ce moment-là. Le siège de Paris est extrêmement dur. Ensuite, vous avez la Commune, la réaction.
Cette insurrection de la Commune qui va donc durer quelques semaines et qui est noyée dans le sang par le gouvernement légal. Donc tout ça.
Et après ça, on a un gouvernement qui est élu, qui est quand même très réactionnaire. Élu jusqu'à quel point ça peut se discuter. Et en effet, on ne sait pas trop ce qui va arriver en France. Et Bartholdi, au fond, cette guerre, c'est la guerre de 70 qui l'a fait vraiment adhérer totalement au projet de la Boulée, ce projet de statut et de célébration de la liberté. Il a participé à la guerre, il faisait partie, je crois, de la garde nationale. Mmh. Il a été l'aide de camp du général Garibaldi, puisqu'à un moment...
Garibaldi a fait partie des volontaires, en quelque sorte, qui ont aidé le gouvernement de défense nationale.
Et Bartholdi a vu sa ville de Colmar occupée. Il habitait à Paris le quartier Montparnasse, le quartier de la rue Vavin, qui était totalement ravagé par les bombardements. Et c'est vrai qu'au sortir de tout ça, il est totalement convaincu par ce projet.
Et la Boulay l'envoie aux États-Unis pour étudier un peu la situation sur place et voir si on pourrait trouver d'abord un bon accueil et puis des financements éventuels.
Absolument, c'est une bonne idée d'ailleurs, parce que du coup, Bartholdi va être convaincu et va être partie prenante et même le principal acteur du projet. Mais imaginez ce sculpteur qui va aux États-Unis rencontrer tous les notables et qui leur dit « Je veux faire face à New York la plus grande statue qu'on n'ait jamais construite. » Au début, on le prend pour un fou, mais il rencontre quand même le président des États-Unis.
Oui.
Il rencontre la plupart des personnalités qui comptent. Et puis, alors, c'est quand il est arrivé à New York, il a vu une petite île. Là, il a repéré une petite île qui s'appelle l'île Bedloe et qui est occupée par un fort qu'on appelait l'île aux huîtres, je crois, précédemment. Et il dit là, c'est idéal. C'est face à l'Amérique, face à l'Atlantique. C'est vraiment le lieu de la rencontre franco-américaine. Il faut que ma statue soit construite là.
Et on peut dire qu'il rentre en France, Nicole Bacharan, plein de grandes idées. Il a été complètement conquis par cette démocratie américaine. Et là, alors, il est, si vous me passez cette expression, il est gonflé à bloc. Hein.
Il est gonflé à bloc. C'est vrai, parce qu'il a fait une sorte de voyage initiatique, en quelque sorte. Il a vu tous les grands lieux de la démocratie américaine. Bon, il est allé à Washington. Il s'est recueilli dans la plantation de George Washington à Mount Vernon. Il est allé à Philadelphie. Il a visité Independence Hall, là où a été proclamée et signée la déclaration d'indépendance. Là, il a repéré un portrait de Lincoln, donc le héros de la Boulée. Un portrait de Lincoln où derrière, en fond, il y a une sorte de soleil avec des grands rayons, une sorte d'allégorie de la lumière. Et là, il s'est dit, mais ça serait très très bien pour ma statue, donc on voit qu'il y a quelque chose qui prend forme. Et il va jusqu'en Californie, il voit ces paysages immenses, les séquoias gigantesques, et ça le conforte dans ce que vous décriviez, cette envie de colossal.
En fait,
voilà, il faut du colossal.
Le comité français va réunir des souscriptions, Bartholdi va travailler à son modèle. Alors il avait cette idée de phare qui représentait une égyptienne, cette fois ça va être une européenne au profil grec. Bartholdi, alors quel est le modèle? Ça on va en parler avec vous, on va voir qui a servi de modèle. En tout cas, on peut dire que Bartholdi est prêt à se mettre à l'ouvrage. Dès 1880, il a les 600 000 francs nécessaires, alors il crée ses ateliers pour fabriquer des ateliers ad hoc pour fabriquer cette gigantesque statue. On y vient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York.
L'envoûtante voix de Frank Sinatra, Them from New York, New York, chanson aussi utilisée pour le film New York, New York de Martin Scorsese, sorti en 1977.
Alors nous partons pour le 17e arrondissement de Paris. Pour les Parisiens, ceux qui connaissent, on est entre la rue Médéric et la rue de Chazelle, tout près du parc Monceau en fait. Hein. Et il y avait là les établissements Monduit et Béchet qui ont été rebaptisés Gaget et Gautier. C'est une entreprise très importante qui fabrique toutes sortes de couvertures en zinc, de plaques, de plomb, de cuivre. Ce sont eux notamment qui ont fait le dôme de l'Opéra, l'archange Saint-Michel sur la flèche de la Sainte-Chapelle, le campanile des Invalides, etc. Donc ils sont habitués en quelque sorte, sauf que là, ce que leur propose Bartholdi, c'est un chantier d'une ampleur assez extraordinaire.
C'est vrai qu'on n'avait encore jamais vu une statue de cette démesure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait la statue de la Liberté, qui on le rappelle, est quand même le symbole à l'origine de l'Alliance franco-américaine, a été construite à Paris puis par petits morceaux. On l'a vu en fait grandir, on l'a vu se développer.
Les habitants du quartier ont vu la tête sortir des toits peu à peu.
Voilà. Elle était normalement prévue, c'était l'idée de Laboulaye. Il voulait faire offrir cette statue que la France l'offre aux États-Unis pour le centenaire de l'indépendance.
Donc mais en 1876,
mais bien évidemment c'est trop tard. Le chantier va prendre, ils s'en rendent compte à ce moment-là, beaucoup plus longtemps. Mais c'est pas grave, il y a un petit morceau, il y a le bras droit avec la torche et on l'envoie aux États-Unis. Ça rate juste l'inauguration de l'exposition de Philadelphie du centenaire de l'indépendance, mais les Américains pourront quand même la visiter. Et donc on verra avec, à ce moment-là, un public nombreux avec des hautes formes en train de visiter ce petit
cette
morceau.
Tête, la tête de la statue, en fait. Hein. C'est ça
voilà. Non, ça c'est non. Le bras.
C'est le bras
avec la torche, oui.
D'accord.
Et alors pendant ce temps-là, ça continue à Paris. On continue à construire les autres morceaux. Effectivement, la tête avec la petite couronne. Et puis un autre morceau sera donc inauguré pour l'exposition, cette fois parisienne. Et on verra les Parisiens acclamer pendant le parcours de cette tête, acclamer ce petit morceau de la Statue de la Liberté en chantant la Marseillaise. Donc des deux côtés de l'Atlantique. On célèbre d'une certaine manière cette alliance séculaire. Oui.
Et puis la liberté, hein, c'est bien là pour le coup, et la notion prend toute sa force étant donné le climat politique de l'époque, hein, de ce nouveau régime qui est en train de se chercher en France et qui finit au tournant des années 1880 par s'installer véritablement cette république qui se veut fondée là-dessus.
C'est vrai que ça n'était pas gagné.
Ah, c'est vrai. Alors on a vu qu'au début il y a eu des fonds pour lancer le chantier, mais le gros problème de cette construction, ça va être de constamment trouver de l'argent, en vérité.
Il faut des sous, tout le temps, énormément d'argent, et ça n'est pas une construction publique. Et Laboulaye, notamment, et son comité de l'Union franco-américaine, va faire preuve d'une imagination débordante. Il va y avoir un grand concert où les heureux invités auront le privilège de payer leur ticket extrêmement cher, pour lequel Charles Gounod aura composé une œuvre originale. Il va y avoir une grande loterie, une loterie nationale. Je pense qu'il y a eu 100 000 Français qui ont participé, dans l'espoir à la fois de participer au projet de construction de la statue, mais aussi de gagner un des lots. Et deux lots, les deux plus importants, ce sont justement des sculptures de Laboulaye. Il va y avoir comme ça toutes sortes d'événements et les États-Unis bientôt vont devoir prendre le relais puisque la statue et les frais de cette statue sont assurés par la France, mais il y a
ce piédestal. Il faut
l'accueillir
ensuite. Bah voilà, il faut faire le piédestal.
Le socle qui est énorme en fait.
Qui est un véritable monument à lui tout seul.
Voilà, il fait une cinquantaine de mètres de haut. Et là aussi, il va falloir trouver de l'argent. Et au moment où on a besoin, en fait, de ce socle, où la statue est presque prête, le Congrès des États-Unis dit non, on n'a plus, c'est pas une priorité pour nous pour l'instant. Il va falloir de l'argent privé. Et c'est Joseph Pulitzer, celui qui donnera son nom à ce fameux prix des journalistes,
oui.
Voilà, qui va ouvrir les colonnes de son journal, le New York World, pour attirer et susciter au fond l'enthousiasme pour ce projet et donc les dollars nécessaires.
Alors pendant ce temps, du côté de la plaine Monceau, à Paris, la statue est en train de prendre forme. Elle se dégage chaque jour, ça devient une véritable attraction. Les Parisiens du quartier d'ailleurs vont s'habituer à voir cette statue et puis ça leur fera tout drôle lorsqu'elle partira réellement. Et alors le visage, les traits de la statue sont maintenant visibles. À qui ressemble-t-elle ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Statue of Liberty, un extrait de l'album Southern Gospel Treasury Series. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la Statue de la Liberté cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Nicole Bacharan et Dominique Simonet.
Et oui, et la boulet dont nous vous parlions au début, qui est donc à l'origine de ce projet, décrivait ainsi la statue telle qu'elle allait prendre forme. Ce n'est pas, disait-il, la liberté avec un bonnet rouge sur la tête et une pique à la main, qui marche sur des cadavres. La nôtre, d'une main tient la torche, non la torche qui incendie, mais le flambeau qui éclaire, de l'autre les tables de la loi. Cette statue symbole de liberté nous dit en même temps que la liberté ne vit que par la vérité et la justice, la lumière et le droit. Voyez, vérité, justice, lumière et droit, nous sommes bien dans une démarche à la fois de juriste et de franc-maçon. On va venir sur cet aspect, bien entendu. C'est cette liberté, ajoutait la boulet, que nous voulons. C'est elle qui restera éternellement l'emblème de l'Alliance, de l'Amérique et de la France. Alors, quel trait va-t-elle prendre, cette statue de la liberté? On a tout évoqué. On a même dit que Bartholdi était allé à Pigalle, à la louée de Pigalle, et qu'il avait choisi la plus charmante des prostituées pour en faire ça.
On a dit beaucoup de choses, mais elle n'a pas l'air très drôle, cette.
Ah non, ça,
c'est quand même un visage très sévère. Donc moi, je doute de la version Pigalle, je ne sais pas. Mais par contre, on dit beaucoup plus qu'elle ressemble à la maman d'Auguste Bartholdi. Charlotte Bartholdi, qui était une maîtresse femme et qui, je crois, menait un peu à la baguette toute la famille. Elle était veuve. Et même son fils, son sculpteur de fils, qui était une star dans son domaine, de fil et doux, puisqu'il s'est marié en catimini aux États-Unis avec une dame dont il a dit à sa maman qu'il l'avait rencontrée aux États-Unis, que c'était en quelque sorte urgent, mais dont on pense qu'elle était en fait avec lui depuis bien longtemps et qu'il l'avait amenée pendant le voyage depuis la France. Donc il semble que ce visage sévère serait madame Bartholdi.
Vous imaginez ce sculpteur, il est un peu moins jeune là maintenant, et qui va faire une statue de sa mère gigantesque.
Docteur Fred
dominant le nouveau monde, c'est tout à fait impressionnant. On a dit aussi que celle qui aurait pu servir de modèle, qui avait le profil grec adéquat, c'était Eugénie Boyer, disait-on. C'était l'épouse du milliardaire Isaac Singer, l'homme des machines à coudre, et qui, en fait, aurait, en l'occurrence, financé une partie du projet. Donc, on lui aurait fait cette fleur.
Enfin, ça pourrait être un hommage.
Il y a pas mal de possibilités. En tout cas, on peut pas affirmer. On ne sait pas exactement qui était représenté.
Non, mais le visage de la maman de Madame Charlotte Bartholdi, mais maintenant est entrée dans la version officielle. Les Américains l'admettent. Voilà, effectivement, c'est peut-être un peu psychanalytique.
Alors, cette statue, il faut qu'on en donne un peu les dimensions. Là, c'est quelque chose d'absolument gigantesque qu'a conçu Bartholdi.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on minimise l'affaire. Parce que, d'une certaine manière, au regard, elle a un petit peu rapetissé. Parce que les buildings du sud de Manhattan sont tellement énormes que quand on regarde une vue générale du port de New York...
Oui, non, elle est à l'échelle.
Petite. Oui. Mais si on se trouve au pied de cette statue, ou si on regarde les photos des gens qui ont visité le bras et la torche ou la tête, elle est absolument colossale.
46 mètres de haut, et comme elle est montée sur ce piédestal qui fait lui-même 50 mètres, on n'est pas très loin des 100 mètres total.
Oui, je crois 93 mètres. Ouais, c'est ça, 93 mètres exactement.
31 tonnes de cuivre, 125 tonnes d'acier. Il faut 354 marches pour accéder donc à la couronne de la liberté. C'est vraiment colossal.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'innovation technologique était assez extraordinaire. Oui. Hein, parce qu'après Viollet-le-Duc, qui avait été chargé de concevoir le projet par Bartholdi et la boulet, c'est Gustave Eiffel qui a pris la succession. Ils ont employé une technique, bon, je ne suis pas spécialiste, mais qui qui était assez innovante à l'époque, surtout vu la démesure de la statue.
C'était Viollet-le-Duc, le célèbre architecte Viollet-le-Duc, qui avait donné l'idée,
hein, absolument, voilà, de repousser. Hein, c'est-à-dire qu'on construit les formes de la statue par du cuivre qu'on repousse de manière à ce qu'il épouse le gabarit. Et puis c'est une statue qui est creuse, c'est-à-dire qu'il y a une armature. Et ça, c'est quand même une idée assez géniale. Il y a une armature et on lui a collé une peau de cuivre qui est assez fragile d'ailleurs, à tel point qu'elle a été
restaurée. Oui, s'oxyde en fait, hein, tout simplement. Ça s'oxyde, ces plaques de cuivre.
Et donc, du fait de cette structure, on peut effectivement la visiter, on peut rentrer à l'intérieur, on peut monter jusqu'à la couronne. Et actuellement, d'ailleurs, les Américains conseillent de demandent presque un certificat médical pour y monter parce que c'est pas si facile que ça. Il y a quand même un escalier en hélice qui fait, je crois,
c'est 254 marches. Hein,
voilà,
c'est beaucoup,
exactement. Oui,
c'est comme pour une tour de cathédrale.
C'est une ascension.
Alors, ce qui est pratique avec cette technique du cuivre repoussé dont vous nous avez parlé, c'est que ça permet de la démonter en partie quand même, cette statue, ce qui va être bien utile au moment de la transporter parce qu'il faut lui faire traverser l'océan, bien entendu.
Ça, c'est quand même incroyable. On se rend compte, donc, qu'elle a été construite morceau par morceau. Au même moment, vous avez des Américains qui visitent le bras et la torche. vous avez des Parisiens qui visitent la tête. Et puis, malgré tout, tout ça s'élève par petits bouts, boulon par boulon, plaque de cuivre après plaque de cuivre, dans ces ateliers dont vous parliez, dans le 17e. Et tout va être redémonté. Redémonter entièrement pour pouvoir être transporté par bateau. Et donc, les Américains vont hériter de à peu près 300 caisses de bois dans lesquelles, c'est un véritable puzzle, dans lequel se trouvent tous les morceaux de la statue et qu'ils vont remonter boulon après boulon dans l'île qui deviendra l'île de la Liberté, mais qui s'appelle encore l'île de Bédelot à l'époque.
Voilà ce qu'on pouvait lire dans le petit journal du 3 juillet. On est vraiment, c'est presque l'anniversaire, hein. 1885, les journaux des États-Unis donnent des détails sur l'arrivée de la statue de Bartholdi à New York. Le navire l'Isère, convoyé par la frégate amiral La Flore, a fait son entrée, salué par les salves d'artillerie et les acclamations d'une foule immense. Une escadre de 90 navires, parmi lesquels plusieurs navires de guerre américains, accompagnaient les navires français.
Le récit de Franck Ferrand.
Et oui, aujourd'hui on parle de la Statue de la Liberté. Vous allez nous conter celle de la petite Statue de la Liberté.
Oui, voilà, parce qu'elle a sa petite sœur, évidemment, que connaissent bien les Parisiens. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Laboulaye, et on va y revenir tout à l'heure, Laboulaye et Henri Martin sont morts en 83. C'est Lesseps, le célèbre Ferdinand Lesseps, qui est désormais président de l'Union franco-américaine. Et la statue, avant de partir, va recevoir la visite de celui qui est, j'allais dire, le roi de la République, hein, qui est le grand français de l'époque, qui est tout à fait à la fin de sa vie d'ailleurs, c'est Victor Hugo en personne et qui assiste au départ de la statue et qui dit « La mer, cette grande agitée, constate l'union de deux grandes terres apaisées. » On imagine très bien Victor Hugo. Entre parenthèses, on se demande si lorsqu'on faisait visiter à Victor Hugo une exposition ou quoi que ce soit, il ne pensait pas surtout à ce qu'il allait pouvoir écrire sur le livre d'or à la sortie. Alors l'État a pris l'affaire en charge, hein, il faut le dire. Et le 4 juillet 1884, il y a la cérémonie de remise aux États-Unis. Ça devait être Jules Ferry, le président du Conseil, qui devait s'en charger, mais il est malade. Grant, de son côté, s'est excusé. Donc, c'est un peu bizarre, cette cérémonie. Et finalement, c'est Lesseps qui va remettre officiellement la statue au plénipotentiaire Morton. Alors, pour remercier les Français, le comité des Américains de Paris organise dès 1884 une souscription pour offrir à la ville de couler en bronze le modèle original de 11,50 m qui avait été fait par Bartholdi et qui avait servi de matrice à la statue définitive. Et le 13 mai 1885, le conseil municipal peut donc assister à l'inauguration de cette fameuse statue Place des États-Unis. La Place des États-Unis d'ailleurs vient juste d'être créée, hein, elle a été créée en 1881 sur l'emplacement des anciens réservoirs de Passy. Seulement, une statue de 16 mètres de haut, quand vous comptez le piédestal, ça réclame un site un peu plus dégagé, évidemment un peu mieux adapté que cette place des États-Unis. Donc, la statue Alors d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que la statue inaugurée, ce n'est pas celle qu'on peut voir aujourd'hui, parce que comme l'ambassadeur Morton achevait sa mission le 14 mai et devait quitter Paris, il va bientôt devenir vice-président des États-Unis, on a inauguré l'original en plâtre, mais cet original évidemment était trop fragile pour être maintenu dehors aux intempéries, et donc il a très vite regagné les ateliers du fondeur Thiébaut, rue Guersan, et la statue en bronze sera achevée 2 ans plus tard. C'est elle, bien sûr, que l'on peut contempler aujourd'hui. Alors où ? Mais c'est la grande question. Il faut lui trouver un emplacement à cette petite sœur de la grande statue de la liberté de New York. Alors, en juillet 1888, le conseil municipal de Paris se met enfin, parce que ça a été de longues discussions, se met enfin d'accord sur la pointe aval de l'allée des Cygnes, donc dans l'îlot des Cygnes, sur la Seine. On est quand même très à l'ouest de la ville, il faut dire. Et on est en train de préparer, bien sûr, l'exposition universelle de 1889, celle qui voit sortir de terre la Tour Eiffel. Et donc, cette petite statue de la Liberté, enfin, fait quand même 16 mètres de haut, sera un des point fort de cette exposition universelle. Et d'ailleurs, à l'époque, la statue regarde vers Paris et vers l'exposition universelle. Elle ne sera retournée vers l'ouest et vers le continent américain qu'en 1937, à la faveur d'une autre exposition universelle, évidemment. Enfin, la grande expo, en tout cas, de 1937. Alors, cette grande dame, si je puis dire, voyage dans les derniers jours de juin. Il faut imaginer, bien entendu, son déplacement. Et elle est inaugurée le 4 juillet 1889 à 14h. On est en plein dans l'exposition universelle. C'est le président Carnot, le président de la République en personne, qui vient l'inaugurer avec Monsieur Whitelaw Reid, qui est l'ambassadeur des États-Unis. Le matin, les deux hommes se sont rendus sur la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus. Vous voyez, il y a toujours cette forte symbolique de l'amitié franco-américaine. C'est un peu avec quelques années d'avance le Lafayette nous voilà de Pershing. Ferdinand de Lesseps est là, bien entendu, lui aussi, entouré de ses filles. Quant à Frédéric Auguste Bartholdi, il est devenu le héros de l'affaire, bien entendu. Il ne mourra que beaucoup plus tard, lui, en octobre 1904, à l'âge de 70 ans. À l'époque, il était complètement obsédé par une idée, c'était de voir un jour sa chère Alsace natale redevenir française, et il lui aurait fait la plus grande des statues, n'est-ce pas ? Mais il mourra avant, évidemment, puisque l'Alsace ne redeviendra française qu'en 1919. Paris conserve plusieurs des œuvres de Frédéric Auguste Bartholdi, donc cette petite liberté de l'île des Cygnes, bien entendu, mais aussi le groupe de la place des États-Unis, et puis place d'Enfer Rochereau, une réduction en bronze de son lion de Belfort, ce lion qui justement était là pour attendre en quelque sorte la rétrocession à la France des départements que lui avait pris la Prusse devenue empire allemand. Autre œuvre monumentale conçue en 1878. Et puis, place des Ternes, il y avait un monument aux aéronautes du siège de Paris. C'était un monument assez original. Seulement, les Allemands l'ont fondu pendant la dernière guerre, donc on ne peut plus le voir, ce monument. En 1986, grâce à une souscription publique du grand journal International Herald Tribune, une reproduction exacte de la flamme, grandeur nature cette fois, parce qu'on a, nous, dans l'île des Cygnes, la toute petite flamme de la petite statue. Mais là, la reproduction de la flamme telle qu'elle est à New York, grandeur nature, cette reproduction a donc été offerte à la France par le peuple américain. Ça, c'est un vote du Congrès. Elle a été installée en 87, place de l'Alma, vous savez, au-dessus du fameux tunnel où la princesse de Galles devait trouver la mort le 31 août 97. Ce qui fait que c'est officieux, ça n'a évidemment rien d'officiel, mais c'est un clin d'œil, une ironie de l'histoire. Cette flamme de la liberté, elle est devenue une sorte de monument à la mémoire de Lady Di.
Hymne à la statue de la liberté, une musique composée par François-Joseph Gossec.
Et ce qu'il faut dire pour ce qui est des reproductions de la statue de la liberté, en tout cas pour ce qui concerne la France, parce qu'il y en a dans le monde entier, pour tout vous dire, de ces reproductions, il faut dire qu'une première copie avait été installée à Hanoï. Il ne faut pas oublier que la France, à l'époque, est en train de coloniser le Tonkin. Donc on installe, c'est un paradoxe, la liberté à Hanoï. Une autre à Bordeaux. Et puis très récemment, vous le savez, en juillet 2004, pour le centenaire de la mort de Bartholdi, une réplique de 12 mètres a été été inaugurée dans sa ville, à Colmar. Et à l'heure où je vous parle, c'est la plus grande réplique de la Statue de la Liberté existant sur la planète.
On la voit de loin, dressée sur son île, avec dans le coin sa torche érectile. Ils sont là proches.
Nougaro à l'instant avec Lady Liberty, un extrait de son album New York. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Statue de la Liberté avec vous Franck Ferrand et on a beaucoup de réactions de nos auditeurs.
Nos auditeurs sont passionnés par cette histoire de Statue de la Liberté. J'ai lu quelque part, nous dit Dominique, que Bartholdi s'était inspiré d'une statue qui se trouve à l'intérieur de l'église Santa Croce de Florence. C'est une des possibilités. Pour tout vous dire, on vous a donné 3 pistes, mais j'en avais relevé 11 moi. Donc chacun a sa théorie et il y a même des personnes, parce qu'il faut imaginer la littérature à laquelle a pu donner lieu cette statue de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers pour expliquer de qui Bartholdi s'était inspiré. Quant au bateau qui a transporté la Statue de la Liberté, nous dit Christian, il a coulé dans la rade de l'Orient. Eh bien, figurez-vous qu'il y est toujours. Voilà, ça c'est une information. Concernant la Statue de la Liberté, nous dit par ailleurs Arnaud, je voulais vous signaler l'existence d'une réplique de cette statue dans la petite station balnéaire de Soulac-sur-Mer, à la pointe du Médoc. La statue fait d'ailleurs face à l'océan, sans doute pour faire face à l'original. Il faut dire qu'il y en a partout dans le monde, reproductions Dominique Simonet.
Il y en a même à Paris, au Jardin du Luxembourg. Oui, il y a une petite au Jardin du Luxembourg, à côté d'un chêne qui reste un chêne tout à fait malingre, d'ailleurs, un peu curieux, il ne veut pas pousser celui-là, qui est censé commémorer les attentats du 11 septembre. Donc il y a toujours aussi cette force symbolique de la statue.
Mais alors, ce symbole, Nicole Bacharan, est-ce que c'est le symbole de la liberté? Est-ce que c'est le symbole des États-Unis? Est-ce que c'est le symbole des États-Unis et de la France alliés? Est-ce que c'est aussi peut-être un symbole maçonnique? Parce qu'il faut dire que tous les gens dont nous avons parlé, Laboulaye, Bartholdi, Lesseps, enfin tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré à la construction de cette statue étaient des francs-maçons notoires et très engagés, si je puis dire.
Oui, et ça joue un vrai rôle dans leur adoption de ces idéaux républicains, libéraux français et américains à la fois, comme ça avait été le cas pendant la Révolution française et pendant la guerre d'indépendance des États-Unis avec des gens comme Washington, Jefferson, Madison, etc., qui étaient tous francs-maçons. Et leur point de vue à la fois de modérés, ce sont des gens qui détestent les révolutions sanglantes, mais libéraux, qui sont donc de vrais républicains attachés aux libertés publiques et aux libertés individuelles, elles sont présentes de mille manières. La torche, les tables de la loi, les chaînes brisées qui sont aussi le symbole de la fin de l'esclavage, tout ça nourrit la symbolique de cette statue. Mais au fond, j'ai l'impression que chacun l'a adoptée selon son cœur et ses élans particuliers. J'ai l'impression malheureusement parfois que pas mal d'Américains oublient que c'est un cadeau de la France, que c'est un symbole de l'alliance franco-américaine, tellement c'est devenu le symbole de la liberté américaine. La statue a d'ailleurs été fermée plus de 3 mois après les attentats du 11 septembre, parce qu'on pensait, ça ne me paraît pas absurde, que ça pouvait être une cible, parce que c'est tellement symbolique.
C'est un symbole absolu,
voilà.
Oui, c'est vrai.
Et puis, c'est devenu le symbole de la liberté, vraiment, pour les millions d'immigrants qui ont quitté l'Europe.
C'est-à-dire que quand on voit, on a bien sûr à l'esprit les images du film de Charlie Chaplin, hein, mais sur l'émigré qui arrive donc aux États-Unis, mais pour tous ceux qui ont quitté l'Europe, qu'ils fussent italiens, polonais, etc., et de tous les pays, l'arrivée dans le port de New York, l'arrivée dans cette terre promise, c'était d'abord l'accueil de Lady Liberty.
Absolument. Ils arrivaient en bateau, c'est plus le cas pour les immigrants d'aujourd'hui, ils arrivaient en bateau après des traversées souvent difficiles, en général dépouillés de leurs derniers sous pour payer le passage, et ils fuyaient la famine, je pense aux Irlandais, les pogroms pour les juifs polonais, ukrainiens. 12 millions d'immigrants arrivent entre le moment où cette statue est inaugurée et le début des années 50. Donc c'est colossal. Et Hollywood, évidemment, a magnifié ce moment tellement émouvant et symbolique. Vous citiez Charlie Chaplin, mais on pense pense aussi au film d'Elia Kazan, où vous avez ces immigrants tassés sur le pont et qui voient dans la brume cette statue qui tout d'un coup surgit et qui hurle « America ». Et comme là, beaucoup de réalisateurs hollywoodiens qui ont vraiment nourri le rêve américain sont d'origine européenne et ont fui diverses persécutions dans leur continent d'origine, Miss Liberty, elle est vraiment au cœur de toute l'histoire et elle est très chère au fond, au cœur des immigrants. Et aujourd'hui, dans le port de New York, on la voit plus petite qu'autrefois et elle en est, je dirais, d'autant plus émouvante.
Oui, c'est vrai. Elle a été un peu écrasée par tout ce qui a pu être construit.
Et c'est difficile de faire Dominique plus fort, Simonet. Je crois, dans le qu'un objet. Certes, il est un gros objet, mais représente à ce point tout ce que, je ne sais pas, une certaine idée des droits de l'homme peut exprimer. Nicole l'a dit, c'est à la fois l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, la liberté. Ça, c'était l'idée originale de la boulée, mais aussi les relations franco-américaines, mais aussi les immigrants, mais aussi les États-Unis eux-mêmes. Vous montrez la Statue de Liberté, ça représente immédiatement l'Amérique, mais ça représente plus. Et il y a aussi ce, d'une certaine manière, il faut peut-être le dire, c'est une évidence, mais c'est une femme, la liberté.
Oui, voilà.
La liberté, c'est une femme. Et d'ailleurs, en 1886, quand elle a été inaugurée, il y a eu une petite protestation. C'était un petit bateau parmi les bateaux dont vous parliez. Un petit bateau qui était un bateau de suffragettes et de femmes qui disaient mais la liberté est une femme, mais nous n'avons pas encore cette liberté, notamment pas les droits de vote à l'époque. Oui. Donc elle va d'une certaine manière jusqu'aux idéaux universels. On se souvient, on l'avait vu aussi, une réplique de la Statue de la Liberté sur la place Tiananmen qui a été écrasée par les chars à l'époque. Donc
on
ça reste
au vers de Victor Hugo, ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil. Cette liberté éclairant le monde s'inscrit dans cette vision là.
Oui, c'est une vision que vraiment ça a été porté quand même par cet homme qu'on connaît assez peu en France, hein, Édouard de la Boulay, dont on a parlé pendant cette heure. Et il faut dire en plus, c'est cet homme qui avait une foi si grande, à la fois pour les relations franco-américaines, mais aussi pour ses idéaux démocratiques, qui adorait l'Amérique, qui adorait toute sa vie adorait l'Amérique. Il n'est jamais allé en Amérique. Il n'a pas vu sa statue. Il n'a pas vu sa statue, il est mort avant.
Ouais, et
donc, il ne sait pas
histoire.
Du tout que à quel point son rêve avait été concrétisé bien au-delà de tous ses espérances.
Il est devenu une icône absolue, un peu comme notre Joconde au Louvre. Hein, ce sont parmi les images les plus célèbres, on peut dire, et les plus reproduites de la planète. D'ailleurs, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, la mode était à porter des t-shirts avec la tête de la Statue de la Liberté. J'ai connu la Statue de la Liberté sur des t-shirts avant de la voir en statue. Et je me disais, mais qui est ce personnage qu'on nous montre comme ça à toutes les sauces? Ça nous amène d'ailleurs aux produits dérivés. Et Mathieu nous dit que le mot gadget proviendrait de l'entreprise Gaget. Alors qu'en est-il de cette origine du mot gadget qui serait un gadget de la statue de la liberté?
C'est une possibilité. C'est effectivement une. Alors, pendant la construction de la statue dans ces fameux ateliers du 17e arrondissement à Paris, il y avait beaucoup de curiosité. Vous l'avez dit, des personnalités. C'était très chic d'aller voir la statue. Et c'était quand même.
Il fallait les VIP, comme on dit.
Exactement. Voilà. C'était Victor Hugo et puis quelques personnes, mais le grand public n'y allait pas. Et donc, il y avait un certain nombre de petites répliques qui avaient été imaginées, de petites statue qui avait été imaginée, dit-on, par un fondeur qui s'appelait Gaget. Les Américains prononçaient gadget, c'est devenu effectivement, bon, ça, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est la réalité? Sans doute un petit peu des deux, mais effectivement, les mots se forment comme ça avec les usages et les modes, et c'est pas du tout.
Et les statuettes se vendent partout.
Et les statuettes se vendent
comme
partout.
Comme la Tour Eiffel.
Et alors aujourd'hui, les gadgets, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils continuent à marcher. Il y en a dans tous les métaux, dans toutes les tailles.
Enfin, oui, il y en a chez Tiffany's des très chers, il y en a en laiton autour du port de New York. On peut la trouver sous toutes ses formes et à tous les prix.
Alors, on peut donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce 4 juillet 2013, cette Statue de la Liberté, on peut de nouveau la visiter. Elle vient de faire peau neuve en même temps, ils en ont profité.
Oui, il y a eu plusieurs période comme ça de grande rénovation. Hein. Je me souviens que quand Ronald Reagan était président, il avait lancé un grand projet de rénovation. Donc la statue avait été fermée plusieurs années au public. Et là, elle a été fermée, vous le disiez en début d'émission, après le passage de l'ouragan Sandy à l'automne dernier, puisqu'elle avait été endommagée. Et elle ouvre aujourd'hui même, 4 juillet. On peut de nouveau monter ce fameux escalier jusqu'en haut, jusqu'à la couronne, et regarder par les fenêtres, puisque en fait, en dessous des faisceaux de l'auréole, il y a ces petites fenêtres où les gens apparaissent tout d'un coup tout petits.
Et j'aimerais finir par un conseil, parce que quand on est à Manhattan, évidemment, il y a cette possibilité hein, d'aller, mais ça prend presque une après-midi quand même, c'est toute une petite expédition d'aller visiter la Statue de la Liberté. Alors, la plupart des gens disent « Oh, bon, à quoi bon, on la voit d'ici, c'est très bien ». Non, non, allez-y, car vraiment, c'est un souvenir inoubliable, c'est un moment extraordinaire, l'arrivée, l'approche devant cette chose absolument gigantesque et puis ce symbole que vous avez l'impression de faire vôtre, c'est un moment magnifique. Merci beaucoup Nicole Bacharan et Dominique Simonet d'être venus de nous parler de ce dont vous allez peut-être un jour parler par écrit, mais j'ai cru comprendre que vous restez discret sur la
vous
question.
Vous nous avez convaincus là, je crois que...
Merci en tout cas de nous avoir parlé de Miss Liberty.